Chapitre 20. La maison. Pénélope sent de nouveau la peur l'envahir, comme si celle-ci avait simplement repris son souffle pour pouvoir ensuite mieux hurler en elle. Elle essuie les larmes de ses joues et tente de se relever. Des gouttes de sueur coulent entre ses seins et le long de ses côtes sous ses aisselles. Son corps, endolori par tous ses efforts, tremble sans cesse. Du sang pénètre la crasse dans la paume de ses mains.
« On ne peut pas rester là !»
chuchote-t-elle en entraînant Björn avec elle. Il fait sombre dans la forêt, mais le matin prendra bientôt le dessus sur la nuit. Ensemble, ils se dirigent à nouveau vers la plage, mais beaucoup plus au sud que la maison. Ils doivent s'éloigner le plus possible du poursuivant, mais savent qu'il leur faut trouver de l'aide ou un téléphone. La forêt s'ouvre progressivement vers l'eau et ils reprennent leur course. Entre les arbres, ils aperçoivent une nouvelle maison. Elle est à 500 mètres, peut-être moins. Les turbines d'un hélicoptère grondent au loin, puis le bruit s'éloigne. Björn semble pris de vertige et Pénélope craint qu'il n'ait plus la force de courir lorsqu'elle le voit s'appuyer à terre ou contre des troncs d'arbres. Une branche craque derrière eux comme brisée par le poids d'un être humain. Pénélope accélère et court maintenant aussi vite qu'elle peut à travers la forêt. Les arbres sont de moins en moins nombreux et elle distingue la maison située à 100 mètres à peine. La lumière des fenêtres se reflète dans le vernis rouge d'un Ford garé tout près. Un lièvre bondit et file à toute allure sur la mousse et les brindilles. Haletant et effrayé, ils parviennent jusqu'à l'allée de gravier. Ils ressentent des fourmillements dans leurs jambes lorsqu'ils s'arrêtent enfin pour regarder autour d'eux. Ils gravissent les marches du perron, ouvrent la porte d'entrée et entrent.
« Eh oh ! On a besoin d'aide !»
dit Pénélope. La maison a conservé la chaleur de la journée ensoleillée. Björn boite. Ses pieds nus laissent des traces de sang sur le sol de l'entrée. Pénélope inspecte rapidement toutes les pièces, mais la maison est vide. Ses occupants passent sans doute la nuit chez leurs voisins après la fête, se dit-elle en regardant par la fenêtre cachée derrière les rideaux. Elle attend un moment, mais n'aperçoit aucun mouvement dans la forêt, sur la pelouse ou dans l'allée. L'homme a peut-être enfin perdu leurs traces. Il attend peut-être encore près de l'autre maison. Elle retourne dans l'entrée et constate que Björn est assis par terre et examine les plaies sur ses pieds.
« Il faut te trouver des chaussures, » dit-elle.
Il lui adresse un regard vide, comme s'il ne comprenait pas ce qu'elle disait.
« Ce n'est pas fini. Il faut que tu trouves quelque chose à te mettre aux pieds. »
Björn se met alors à fouiller la penderie du vestibule. Il jette au sol des chaussures de plage, des bottes en caoutchouc et de vieux sacs. Pénélope évite toutes les fenêtres mais se déplace d'un pas alerte à la recherche d'un téléphone. Elle regarde sur la table de l'entrée, dans la petite mallette posée sur le canapé, dans le bol sur la table du salon et parmi les clés et les documents de l'union routière éparpillés sur le plan de travail. Elle entend soudain un bruit à l'extérieur, s'immobilise et tend l'oreille. Ce n'était peut-être rien. Les premiers rayons du soleil matinal pénètrent par les fenêtres. Baissée, elle se faufile jusqu'à la grande chambre à coucher, ouvre les tiroirs d'une commode et repère une photo de famille dans un cadre parmi les sous-vêtements. Sur celle-ci figurent un homme, une femme et deux adolescentes, certainement leur fille. La photo a été prise dans un atelier. Les autres tiroirs sont vides. Pénélope ouvre une armoire, retire quelques habits de leur cintre, puis s'empare d'un sweat à capuche noire qui semble appartenir à un gamin de 15 ans et d'un pull en laine. Elle entend un robinet couler et se précipite dans la cuisine. Björn boit penché au-dessus de l'évier. Il a enfilé une vieille paire de baskets trop grande pour lui.
« Il faut trouver quelqu'un pour nous aider, » se dit-elle. « C'est complètement insensé. Il devrait y avoir du monde partout. »
Pénélope rejoint Björn et lui donne le pull en laine lorsqu'on sonne à la porte. Björn sourit d'un air surpris, enfile le pull et marmonne que la chance leur sourit enfin. Pénélope se dirige vers l'entrée en ramenant ses cheveux derrière ses oreilles. Elle a presque atteint la porte lorsqu'elle distingue la silhouette derrière la vitre opaque. Elle s'arrête net et observe l'ombre dessinée sur la vitre embuée,
soudain incapable de tendre la main pour ouvrir. Elle reconnaît sa posture, la forme de sa tête et ses épaules. Elle en a presque le souffle coupé. Elle recule lentement vers la cuisine, ses muscles se contractent, elle voudrait courir, son corps lui dicte de fuir. Elle fixe la vitre, le visage flou, le menton fin. Sa tête tourne, elle continue de reculer, bute contre les sacs et les bottes qui sont à terre, tend la main pour prendre appui contre le mur, ses doigts tâtonnent sur le papier peint et font pencher le miroir du vestibule. Björn s'immobilise à ses côtés. Il tient un couteau de cuisine à large lame. Il a le teint blafard et la bouche entrouverte. Ses yeux fixent la vitre. Pénélope heurte une table. La poignée de la porte s'abaisse lentement. Elle s'empresse de rejoindre la salle de bain, ouvre le robinet et crie d'une voix forte « Entrez ! La porte est ouverte !» Björn tressaille. Son sang bourdonne dans ses oreilles. Il maintient le couteau devant lui, prêt à se défendre, à attaquer. Puis voit la pression exercée sur la poignée se relâcher. La silhouette disparaît et, après quelques secondes, ils entendent un bruit de pas sur le gravier. Björn regarde vers la droite. Pénélope sort de la salle de bain. Il désigne la fenêtre du salon. Il s'en écarte. À peine ont-ils pénétré dans la cuisine qu'ils entendent l'homme traverser la terrasse en bois. Le bruit indique qu'il passe devant la fenêtre et avance jusqu'à la porte de la véranda. Pénélope tente d'imaginer ce que peut voir le poursuivant, de se figurer si son angle de vue lui permet d'apercevoir les chaussures dans le vestibule et les traces de sang au sol. Les planches de la terrasse grincent de nouveau, mais cette fois-ci au niveau de l'escalier qui descend vers l'arrière de la maison. Il la contourne et se dirige vers la fenêtre de la cuisine. Björn et Pénélope s'accroupissent, se blottissent contre le mur juste en dessous de la fenêtre. Ils s'efforcent de rester immobiles, de respirer silencieusement. Ils s'approchent de la fenêtre. Ses mains effleurent le rebord en tôle. Ils comprennent qu'ils regardent par la fenêtre. Soudain, Pénélope s'aperçoit que la fenêtre se reflète sur la vitre du four. Elle peut voir leur poursuivant scruter la pièce. Si à cet instant, il posait son regard sur la vitre, il croiserait celui de Pénélope. Il ne va pas tarder à comprendre qu'il se terre ici. Le visage disparaît. Ils entendent ses pas sur la terrasse en bois, puis sur le gravier de l'allée jusqu'à l'entrée. Alors que l'homme ouvre la porte d'entrée, Björn se précipite vers celle de la cuisine, pose le couteau sans un bruit, tourne la clé dans la serrure, ouvre la porte et s'enfuit par le jardin. Pénélope le suit dans la fraîcheur du matin. Il traverse la pelouse en courant, passe devant le tas de compost et pénètre dans la forêt. Il fait encore sombre, mais la lumière naissante de l'aube s'infiltre déjà entre les arbres. Pénélope est submergée par la peur qui l'entraîne toujours plus loin. Elle esquive de grosses branches, saute par-dessus de petits buissons ou des pierres. Elle entend la lourde respiration de Björn juste derrière elle. Et plus loin, elle devine cet autre qui les suit comme une ombre. Elle sait qu'une fois qu'il les aura retrouvés, il les tuera. Pénélope se souvient d'une histoire qu'elle avait lue un jour. Une femme au Rwanda avait survécu au génocide perpétré par les Hutus contre les Tutsis en se cachant dans un marécage. Puis elle avait couru tous les jours, tous les mois qu'avait duré le génocide. Ses anciens voisins et amis la chassaient désormais à coups de machette. « On imitait les antilopes », expliquait la femme dans le livre. « Ceux d'entre nous qui ont survécu dans la jungle imitaient la fuite des antilopes devant leurs prédateurs. On courait. On prenait des chemins imprévisibles, on se divisait et on changeait sans cesse de direction afin de désorienter ceux qui nous poursuivaient. Pénélope a conscience que leur fuite est désespérée. Ils courent sans avoir de stratégie, sans réfléchir, ce qui n'est pas à leur avantage, mais à celui de leur poursuivant. Ils courent sans ruse. Ils veulent simplement rentrer, trouver de l'aide, alerter la police. Le poursuivant le sait pertinemment. Leur intention première sera de rechercher des personnes susceptibles de les aider, de rejoindre des zones habitées, de regagner le continent pour rentrer chez eux. Un bout de branche cassé déchire le pantalon de Pénélope. Elle titube sur quelques pas, mais continue d'avancer. La douleur qui la brûle enserre sa jambe tel un nœud coulant. Ils ne doivent en aucun cas s'arrêter. Elle sent le goût du sang dans sa bouche. Björn trébuche dans un fourré. Il change de direction près d'une grande souche déracinée dont la cavité terreuse est remplie d'eau. Pendant qu'elle court aux côtés de Björn, sa peur fait ressurgir en elle un souvenir inopiné, celui d'un moment où elle avait été aussi terrorisée que maintenant. Des images de l'époque du Darfour refont surface. Dans les yeux des gens, elle pouvait voir la différence entre ceux qui avaient été traumatisés, qui n'en pouvaient plus, et ceux qui luttaient encore et refusaient d'abandonner. Elle n'oubliera jamais les enfants qui étaient venus une nuit à Kouboum avec un revolver chargé. Elle n'oubliera jamais la peur qu'elle a éprouvée.